Le masque et la plume. L'actualité de la scène est au sommaire du masque cette semaine, avec une dizaine de spectacles, coup de cœur compris, et quatre critiques face au public, comme d'habitude. Sandrine Blanchard, du journal Le Monde, Pierre Lesquelène, de I.O. Gazette et Détective Sauvage, Fabienne Pascot, de Télérama, et merci d'accueillir Anna Sigalevitch, de France Inter et France Culture, qui exceptionnellement apparaîtra aussi dans la tribune d'une autre discipline. Au programme du jour, la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort, dans une mise en scène de Gilles Ricot, Les Conséquences, nouvelle création de Pascal Rambert, Le Paradoxe de John, nouvelle création de Philippe Ken, Musée Duras, nouvelle création de Julien Gosselin, le one-man show de Danny Boone qui avance sous le titre « Clown n'est pas un métier » et la comédie romantique « Un pas de côté », première pièce d'Anne Giaferi avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Bonjour, bienvenue, voici le masque. Tout juste sorti de la représentation de la pièce de Yon Foss et jamais nous ne serons séparés, je décide d'écouter le masque dans le train qui me ramène à Lille, écrit Géraldine Sabourdin. Et là, colère contre la critique à l'encontre du spectacle. Cette auditrice salue le jeu intense et tout en variation de la comédienne Dominique Raymond, interprète d'une femme au deuil impossible. Cette auditrice écrit « Cette femme est une quittée qui n'accepte pas de l'être, une forte qui a des failles, une comme vous, une comme moi. Une qui utilise des mots simples comme « reviens » ou « j'attends » répétés souvent parce que le chagrin se ressasse. Je rappelle que « Et jamais nous ne serons séparés » dans une mise en scène de Daniel Jeanneteau et Mamar Benranou est en tournée dans toute la France jusqu'au printemps prochain avec des dates à Valence, Annecy ou Poitiers. Tout le reste du courrier, de plus en plus copieux, concerne la chère et triste hélas, pièce Covidie a adaptée de son livre homonyme où elle expose les raisons qui l'ont conduite à faire la grève du sexe avec les hommes. Dans ce spectacle, Anna Mouglalis est seule en scène pour porter le texte. L'écriture d'Ovidie m'a permis de me sentir moins seule, écrit Maude de Besançon. Si la forme théâtre-conférence est critiquable, elle permet de penser contre soi-même. Et c'est tout l'intérêt du théâtre. Réjouissons-nous de pouvoir confronter notre pensée politique et sociale à celle d'une génération qui a beaucoup à nous apprendre. Mais Caroline Roard constate, apparemment, concernant les rapports hommes-femmes, la radicalité d'Ovidie fait davantage réfléchir la nouvelle génération que l'ancienne. Réveillez-vous, nous sommes en 2025, s'exclame Hélène. La pensée d'Ovidie remonte à la source d'un patriarcat qui a gangréné, fermé les guillemets, les relations hommes-femmes. Marie-Noëlle Ferraud-Lecointre répond en déplorant les représentations caricaturales du couple et ajoute, entre parenthèses, il n'y a pas que des mâles dominants, pervers et violeurs. Anna Mouglalis a une voix d'homme, demande Julien de Paris. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Anna Mouglalis est une femme, elle a une voix de femme. N'y voyez pas un mauvais procès de la part d'une féministe woke, car je suis un homme. Enfin, si vous me l'accordez, bien sûr. Pour vous faire un avis, La chère et triste hélas d'Ovidie, avec Anna Mouglalis, se joue au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon les 28 et 29 novembre, avant une reprise en janvier, au Théâtre de l'Atelier à Paris. On commence avec des sœurs jumelles, celles qui ont du plomb dans la cervelle et de la fantaisie à gogo, les Demoiselles de Rochefort, donc chef-d'œuvre de Jacques Demy et Michel Legrand, devenue comédie musicale à l'initiative de Jean-Luc Choplin, le directeur du Lido 2. Pour les Demoiselles de Rochefort, il a fait appel au metteur en scène Gilles Ricot, qui exploite toutes les possibilités du Lido, vidéo et projection en 3D, trappe, plateau qui pivote. La direction musicale est assurée par Patrice Perrieras et la partition de Michel Legrand est remarquablement interprétée en direct par l'Orchestre National du Lido. Enfin, les rôles de Delphine et Solange, ces deux femmes libérées qui rêvent du grand amour, sont confiés à des chanteuses lyriques, à savoir en alternance Juliette Taquino, Maëlys Arbaoui ou Westphal, Marine Chagnon et Sophie Stern. Fabienne, ouvre le bal des demoiselles.
Alors, un conseil, ne pas regarder le film de Jacques Demy de 1967 avant d'aller voir le spectacle, parce que le film de Jacques Demy est beaucoup plus élégant, délicat, raffiné, aérien. Et évidemment, Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve ont une grâce infinie. Elles sont jeunes, belles. Alors certes, elles sont doublées et elles ne chantent pas comme le font les interprètes du Lido, qui sont, alors moi je trouve, des voix lyriques, mais qui manquent de ce côté peut-être un petit peu jazzy, qui ont bien moins d'allure, de classe et d'élégance que nos deux vraies sœurs de Neuve. Je dois reconnaître quand même que le spectacle m'a fait très plaisir, m'a fait du bien. C'est un appel à la joie de vivre, à aimer. Il y a la mise en scène joue de toutes les facéties possibles. Il y a une tournette, il y a des décors qui montent, qui descendent. Les chorégraphies sont presque mieux que dans le film. Il y a des tas de choses tout à fait plaisantes et il y a surtout une gaieté qui entraîne quand même le public. Donc, c'est pas top, 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 mais il faut quand même y aller parce que si on n'a pas vu le film, c'est délicieux.
Tu as trouvé ça top, 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 Sandrine ?
Ah, moi, j'ai trouvé que c'était un enchantement. J'ai adoré ce spectacle et je suis une fan absolue du film et je ne suis pas d'accord avec toi, Fabienne. Justement, j'aimais tellement le film que je me suis dit, j'espère ne pas être déçue. Et en fait, je ne l'ai jamais été. J'ai même eu une bouffée d'émotion quand j'ai entendu les premières notes de ce spectacle.
Terrible,
les costumes sont très très beaux, les costumes d'Alexis m'habillent. Et vraiment, j'ai jamais été déçue et j'ai retrouvé... C'est du Broadway à la française, c'est extrêmement bien fait. Effectivement, musicalement, j'ai trouvé que c'était formidable, que l'orchestre est vraiment... avec un son aussi qui est vraiment parfait. J'ai mis un petit temps à m'habituer à la dimension lyrique des chanteuses, mais je trouve qu'après, ça ne pose absolument aucun problème.
C'est vrai que « Mais patiente une minute, tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute », avec une voix lyrique, ça ne sonne pas de la même façon.
Mais non, mais voilà, c'était... Alors effectivement, on ne voit pas les rues de Rochefort. Il y a un autre parti pris avec de la 3D, avec ces lettres de la ville de Rochefort en fond. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et vraiment, il y a une fluidité scénique qui est assez remarquable.
Oui, mais tout
et
les, j'ai trouvé la que la distro pas Danielle Darrieux, par exemple.
Ah si, elle est formidable.
Non,
ah si, 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 elle est formidable. Et aussi le comédien qui joue le rôle que jouait Michel Piccoli est remarquable. Enfin,
Arnaud Léonard, qui interprète Simon Dame.
Voilà, j'ai passé un moment,
moment
merveilleux.
Jacques Perrin, par exemple, qui est un peu patapouf.
Non, je suis pas d'accord. Et je trouve aussi que les seconds rôles, notamment les deux forains et la jeune fille qui sert dans le café de la mère des sœurs, même les seconds rôles sont très très bien. C'est vraiment, il faut y courir. On sort avec un sourire aux lèvres et une envie de joie, de gaieté qui fait un bien fou.
Alors, j'ai noté que aujourd'hui, le lexique de Fabienne, c'était pas top, top, top et patapouf. Quel va être le tien, Pierre ?
Je suis d'accord avec Sandrine. C'est un show à la Broadway dans des décors qui ressemblent à d'anciennes vitrines des boutiques Sephora des Champs-Élysées qui auraient été portées au Lido. Et donc, moi, j'ai eu l'impression d'être devant les grandes dames de Monte-Carlo, mais pas devant les demoiselles de Rochefort. Alors, moi, je suis née, j'ai grandi à Rochefort, je n'ai rien connu de cette ville. Alors, évidemment, quand on met une comédie musicale sur un plateau de théâtre, évidemment qu'on cherche autre chose. Mais le problème, c'est que en enlevant la ville, on perd tout le réel de cette comédie musicale. On perd tout le sucré salé des images de Demy, qui sont des images très mélancoliques, dans lesquelles l'idéal des personnages est sans arrêt contrarié. Là, on a le sucre glace des demoiselles de Rochefort, on a la petite bluette datée, littérale, et alors, pardon, mais quand ça joue théâtralement, c'est vraiment catastrophique.
Oh. Anna ?
Bon, bon, bon. Alors.
Bon, 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 top, top, top.
Moi, je tip, tap, toup, je dirais, un peu entre les deux.
D'accord.
Je trouve que c'est objectivement très réussi, qu'il y a un savoir-faire incontestable, que ces deux jeunes femmes... Alors, moi, j'ai vu la distribution avec Marine Chagnon et Juliette Taquino. Marine Chagnon, par exemple,
oui,
c'est quand même...
Aussi.
C'est une mezzo qui vraiment fait carrière. C'est une de nos grands espoirs français dans le chant lyrique. Moi, je l'ai entendue dans du Monteverdi peu de temps avant. Donc, c'est assez amusant de la voir là, dans un spectacle comme celui-ci. Elle joue le jeu à fond. Je trouve que c'est... Voilà, c'est réussi, c'est fluide. La scénographie, en effet, est très judicieuse. Mais... Moi, ce que je regrette presque, c'est le fait que ce soit si réussi. C'est la professionnalisation,
c'est
en fait, de la chose.
C'est très fidèle au
Alors,
film.
Non, Dans le film, il y a une fragilité, il y a quelque chose de très en retrait, c'est la caméra qui vient vers elle, et elles sont jamais complètement à fond, ni d'Orléac, ni Catherine Deneuve, d'ailleurs elles sont doublées, mais c'est impossible de faire ça sur une scène de théâtre, donc dans le genre, c'est comme ça, et elles s'en sortent plutôt très très bien. Moi j'ai aussi énormément aimé l'arrivée de Simon Dame, il nous emmène ailleurs. Il propose, quand il chante, on a l'impression que c'est Nougaro presque qui chante, c'est complètement décalé, ça n'a rien à voir avec Piccoli, et je préfère quand on s'éloigne du coup complètement pour proposer autre chose, parce que Les Filles, c'est un tout petit peu entre les deux. C'est à la fois proche du film, mais ça n'a pas exactement le même charme. En revanche, des voix lyriques qui sont très bien si on accepte la comédie musicale avec des voix lyriques.
Les Demoiselles de Rochefort, dans une mise en scène de Gilles Ricot et sous la direction musicale de Patrice Perrieras, c'est jusqu'au 11 janvier au Lido de Paris. On enchaîne avec Les Conséquences, pièce écrite et mise en scène par Pascal Rambert. Après que la salle est plongée dans le noir, on plisse les yeux, le temps de s'habituer au plafond de néon qui éclaire le plateau, néon qui clignoteront pour transformer la scène en club, le temps d'une séquence. En dehors des variations de lumière, le décor reste le même, une grande tente de réception avec table et chaises, et c'est là que nous allons assister aux coulisses de deux enterrements et de deux mariages, la pièce se déroulant sur une décennie. Trois générations d'une même famille se croisent, voire s'affrontent sur scène, toutes et tous incarnent ce qu'on appelle la gauche caviar. Le patriarche est psychiatre, linguiste et député maire, l'une de ses filles est radiologue, un gendre est préfet, etc., etc. Pascal Rambert tend donc un miroir à cette gauche chic en racontant sa faillite avec ses renoncements, ses fautes et ses amours secrets. Tout ça sur le ton de la farce, donc on rit souvent, et avec la troupe habituelle de Pascal Rambert qui réunit entre autres Jacques Weber, Audrey Bonnet ou Arthur Noziciel, plus de nouveaux nus comme Marie-Lou Marini. Pascal Rambert compte les regarder vieillir puisque cette pièce, Les Conséquences, est le premier volet d'une trilogie qui courra jusqu'en 2029 avec les mêmes acteurs et actrices. Sandrine ?
Ah bah quelle famille ! Mais quelle famille ! Enfin, je la trouve aussi cruelle que les lumières sont crues. Parce que vraiment, ces néons, ce blanc-là, qui au début est un peu même
aveuglant.
Agressif et aveuglant, cette famille est absolument redoutable parce qu'elle a sa part de pathétique. C'est un espèce, pour moi, de vaudeville intello, survolté, avec des moments absolument... moi, il y a trois scènes que j'oublierai pas, qui sont les scènes de Stanislas Nordet qui règle ses comptes avec son beau-père, Arthur Noziciel qui s'engueule avec sa femme à cause d'un rendez-vous imprécis et qui fait une sortie sur sa détestation des magasins pylônes et des iguales, qui est absolument mais incroyable. Et puis Audrey Bonnet aussi, la fille qui a fait Normal Sup, qui est allée se vendre au Capital dans une agence de communication et qui finit par être journaliste de théâtre et qui a une révélation en voyant Jekyll and Hyde. Enfin, il y a des moments absolument truculents. Et ça court, ça claque, les bâches claquent, on ne s'ennuie jamais. Et je me dis, mais je me dis, mais... Finalement, Rambert, il fait quoi là? Il règle ses comptes. Parce qu'il dit dans la note d'intention que cette pièce, il ne veut pas porter un regard de jugement sur ces personnages. Mais si, il y a un sacré jugement qui est porté. C'est redoutable le nombre de reniements, de non-dits, de trahisons. Et donc, je trouve que c'est un règlement de compte vraiment très très dur et d'un entre-soi absolument qui est dément et qui me.
Dénonce en tout cas.
Ah, ça c'est sûr.
Fabienne?
Pour moi, c'est une imposture. Pascal Rambert écrit beaucoup, écrit trop. Là, quand on voit que c'est le début d'une trilogie, on dit « ouï, ouï, ouï ». Et donc, on va avoir la suite.
C'est l'émission des onomatopées.
Voilà. Et donc là, moi, je trouve que c'est tous les clichés prétendus autour de la gauche caviar d'un auteur un peu parvenu qui ne connaît pas la gauche caviar mais qui rêverait d'en faire partie. Ça n'est pas Proust regardant l'aristocratie, c'est Pascal Rambert se faisant des idées sur ce qu'est une certaine bourgeoisie de gauche qui est beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus perverse qu'il ne la décrit. Là, on
voit... Elle est sacrément perverse.
Les clichés. Par exemple, la scène du couple dont
je pense pas que ce soit des clichés.
Entre Bonnet et Stanislas Nordey. Il reprend exactement la clôture de l'amour qu'on avait vue il y a 15 ans.
Oui,
moi, je ne vais pas reprendre le personnage de Jacques Weber, c'est celui qui était dans Architecture. Il se répète.
Il s'autocite.
En plus, il fait du name dropping permanent.
Oui, mais pensez aux spectateurs qui découvrent Rambert et qui n'ont pas vu les précédents.
Et le spectateur, tu crois qu'il est content à la fin de cette scène où on évoque la mise en scène d'Alain Françon et le personnage de Fierce dans La Cerisette de Tchekhov?
Parce qu'en plus, c'est bourré de références.
Rambert se prend pour Tchekhov. Il n'est pas Tchekhov. Alors, il dit qu'il écrit pour des acteurs. D'ailleurs, on le voit parce que tous les personnages ont leur réel prénom, donc c'est du cousu humain. Mais il y a quelques scènes, quelques morceaux de bravoure. Mais c'est comme ça, c'est boulevardier. Il jongle avec Feydeau, il croit jouer avec Ibsen et les drames familiaux chez Ibsen. Mais c'est rien. C'est rien.
Non, c'est
ça court dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'il en reste,
Anna?
Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec vous, Fabienne. Enfin, avec toi, pardon, Fabienne. Je trouve que c'est un spectacle beaucoup plus bizarre que ça. Mmh. En fait, je ne suis pas du tout une inconditionnelle de Pascal Rambert, parce que je trouve que dans pas mal de ses spectacles, il a une façon de nous coller au mur qui, moi, me met à distance plutôt que de me donner envie de regarder et d'être avec les acteurs et les personnages. Et là, c'est plus étrange. Alors, en effet, vous
parce
dites
que c'est mal foutu.
Non, c'est pas mal foutu. C'est comme s'il mettait un coup de pied dans la fourmilière de son propre théâtre. Et c'est assez bizarre parce qu'on se dit au début, oulala, c'est du bobo boulevard, donc évidemment il parle d'un certain milieu, etc. Moi je pense qu'il connaît très bien ce milieu.
Oui. C'est tous les clichés qui sont venus sur le milieu. Hein.
Et en plus, c'est la peur
de Le Pen qui arrive et les petits enfants qui sont plus à droite.
C'est
raconté tellement sottement que ça peut rien changer.
Alors, moi, ce qui m'a
il t'a tendu un miroir trop violent, Fabienne.
Non, mais je ne fais pas partie de la gauche caviar, excuse-moi.
Moi, ce qui m'a intéressée aussi, c'est que je découvre que Pascal Rambert a de l'humour et une forme d'autodérision. Parce que dans le spectacle, et c'est étrange, on ne sait pas par moment si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas si c'est du premier ou du second degré. Je pense par exemple à l'arrivée en scène de Laurent Sauvage, qui est entre Lino... Formidable. Entre Lino Ventura et Benjamin Biolay, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? On comprend que c'est un normalien déchu
qui sort de tôle.
Voilà, qui sort de tôle. Non, je dis pas. Qui a commis un crime. Voilà, je m'arrête là. Trois petits points. Et alors, il se met à chanter une chanson de variété italienne avec Audrey Bonnet. Et on voit que la salle est complètement troublée par ce qui se passe. Les gens ne savent pas s'il faut rire ou pas. Et c'est intéressant. Il y a quelque chose qui gratte, qui accroche.
Mais ça grince. Bah, c'est grinçant.
Ouais.
Pierre. Moi, je rejoins Anna. Moi, par Rambert, ça a été une longue traversée. Traversée du désert depuis Clôture de l'amour, qui est pour moi un très grand spectacle, mais depuis, j'avoue que toutes ces disputes en diagonale complètement expressionnistes et souvent très pauvres textuellement, là j'ai retrouvé une pièce chorale plutôt bien faite. Vous parlez des clichés, mais déjà tout roman familial a des clichés, je pense, pour être un vrai roman familial qui se respecte. Et puis il y a des clichés, mais il y a aussi des moments qui ne sont pas des clichés. Il y a par exemple la scène entre Bonnet et Nordey à propos de ce téléphone, à propos de cette double vie qui n'est pas du tout bourgeoise pour le coup, toute la leçon qu'elle lui fait sur la double vie amoureuse. Et puis moi, ce que j'aime, tu parlais de Tchekhov et Ibsen, Fabienne, moi je pense pas que ce soit son ambition, je pense pas qu'il soit dans cette...
C'est la fin de la pièce.
Oui, mais je pense pas que ce soit un théâtre sociologique comme Ibsen ou Tchekhov. C'est un théâtre de la parole performative. Et moi, c'est ça qui me tient, c'est ça qui me relie à cette théâtralité. Et je suis d'accord avec Anna. Je trouve que il y a quelque chose dans ce spectacle qui se déplace un peu dans son esthétique. Déjà, il y a des micros, il y a des silences, il y a de l'intériorité, il y a plus de contraste. Et oui, il y a un peu de mépris de classe, il y a des iguales, il y a pylônes, il y a un peu de gauche caviar, un peu facile.
Beaucoup de gauche caviar.
Beaucoup de gauche caviar. Mais moi, j'ai plutôt envie de voir les prochains.
Voilà. Après avoir été au Théâtre National de Bretagne, Les Conséquences de Pascal Rambert se jouera à Annecy du 2 au 4 décembre, au CDN de Nice du 17 au 19, avant une tournée prévue en 2027. On passe à Clown n'est pas un métier. C'est une appréciation d'un professeur que Danny Boone a pu lire sur ses bulletins scolaires. Il en a fait le titre de son spectacle pour son retour sur scène après 7 ans d'absence. En 7 ans, le paysage de l'humour s'est copieusement renouvelé et Danny Boone aborde ce retour avec une émotion et une humilité palpables. Un one-man show donc, où il est question des difficultés de faire rire aujourd'hui sans blesser ni heurter aucune communauté, de l'absurdité sécuritaire des aéroports, de notre addiction aux écrans ou encore des dégâts des réseaux sociaux et de la salmonelle. Le spectacle compte clin d'œil et hommage à Raymond Devos, mentor et inspiration majeure de Danny Boone, Montou est mis en scène par Isabelle Nanty et Véronique Guéret. Pierre, tu avais la parole, tu la gardes.
Mais moi, j'aime bien le titre de ce spectacle, Clown n'est pas un métier. Son ironie, je trouve qu'on n'a pas de tromperie sur la marchandise. Clown, c'est un grand métier. Je pense que c'est un grand clown. Je pense que c'est un grand acteur, qu'on le voit en permanence. Et je dirais même que sa vis comica, comme on dit, le sauve de ses vis comiques, parce qu'il arrive à décaler ses sujets, qui sont souvent des sujets un peu désuets, un peu rances. On a quand même plein de clichés qui ont déjà été traités 1500 fois dans l'humour. Les mots de passe interminables des ordinateurs, les contrôles à l'aéroport, et j'en passe. Ah. Mais pour moi, c'est la même chose que Gad Elmaleh qu'on avait vu il y a quelques mois. C'est un humoriste star qui fait semblant d'être un peu concerné, dépassé par la société, mais qui en fait essaye de résister au temps, qui essaye de faire le même humour que celui qu'il a toujours fait, qui joue son Kawé à la fin du spectacle, qui est un sketch culte, ou qui joue un sketch de
25. Ça, c'est pour le rappel.
Oui, c'est pour le rappel, mais ça montre bien que rien n'a bougé, en fait, dans son humour. Alors, effectivement, il y a quand même un passage qu'on n'avait jamais traité, un passage inédit, c'est ce passage sur les conséquences intestinales de la salmonelle, qui dure 15 minutes, et je pense qu'il aurait pu s'abstenir.
Voilà. Oh. Mais ça n'est jamais vulgaire.
C'est extrêmement bien fait, ce passage. C'est très drôle, et puis en plus, ça arrive au bout de...
Ça n'est pas drôle parce que ça n'est pas vraiment décalé, en fait, contrairement à d'autres moments.
Si, si, parce que c'est quand même d'une autodérision. Enfin, il a une manière d'amener ce sujet, de le raconter.
Et sur une crête qui n'est effectivement pas facile à tenir, parce que ça ne tombe...
Non, mais... Et elle n'est pas tenue, d'ailleurs.
Ça ne tombe pas dans la vulgarité.
Non, ça ne tombe pas dans la vulgarité. Moi, personnellement, l'histoire de...
Des mots de passe te concernent.
Du parcours de sécurité, par exemple, dans les aéroports, je ne l'avais pas vu traiter. Je trouve qu'il en parle extrêmement bien.
C'est caricatural.
J'aime possible. Beaucoup quand il l'a... Mais c'est pas de la caricature, c'est de l'humour, Pierre.
Ah bon? L'humour est fait sur le décalage, et là, je ne vois aucun décalage.
Eh ben, c'est
je
parce qu'il y a de l'exagération. Il y a de l'exagération, mais c'est justement la bonne exagération pour qu'on rie de la situation. Et puis moi, j'aime bien quand il ose le trivial, parce qu'il y a aussi cette scène où il y a un couple qui a décidé de faire de la chirurgie esthétique, et c'est le mari qui va s'y coller avec son fils. Là, je trouve que c'est pas mal.
Mais là, c'est gore.
C'est gore. Et c'est trivial dans la salmonelle. J'aime beaucoup quand il nous imagine en Gollum, ce qu'on deviendra à force d'être rivé sur nos téléphones portables. Je trouve qu'il a une gestuelle, des mimiques, parce qu'il fait du bruitage, il fait du mime, il fait
de la musique.
Il fait énormément de choses. Je trouve qu'il assure dans l'exercice qu'il fait. Et puis, effectivement, c'est pas très original de dire est-ce qu'on peut maintenant on peut pas rire de tout. Je pense qu'on peut rire de tout, mais tout le passage qu'il fait là-dessus en disant on a toujours peur de heurter quelqu'un. Mais en fait, il assume son côté un peu vieux con parce qu'il a 60 balais et je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a il assume l'âge qu'il a, le décalage qu'il peut avoir avec l'époque et il le raconte assez bien.
Anna.
Alors, moi, je suis tout à fait enthousiaste sur la personne. En effet, j'ai beaucoup aimé le voir en scène. Il a du charisme, il a énormément de charme, il a une façon d'être en scène, de se transformer, qui est tout à fait étonnante. Je suis assez béotienne en Danny Boone, pour être tout à fait honnête, ma connaissance se limite à peu près au ch'ti. Donc vraiment, c'est une découverte. Et oui, il a vraiment quelque chose, et j'ai aimé le voir. Il est très tendre, enfin, il a quelque chose de très humain. Le problème, c'est les sketchs. Là, c'est quand même, pour moi, pas possible. C'est-à-dire que... Alors, ça commence bien, parce que moi, j'ai bien aimé ce premier sketch où, en effet, il arrive en scène en disant « Bon, ben voilà, ça fait 7 ans que j'ai pas fait de spectacle. » Donc, je me suis beaucoup posé de questions sur le premier sketch, parce qu'il s'est passé pas mal de choses en 7 ans. En effet, il s'est passé pas mal de choses, hein, et tant mieux, on pourrait dire. Alors, comment faire un spectacle sans blesser, sans vexer et sans procès? Et là, il se lance dans une espèce de terrain totalement glissant parce qu'on passe des femmes aux blondes et il se rattrape. Bon, voilà. Et puis ensuite, le spectacle commence vraiment. Et
mais là, il est assez virtuose là-dedans.
Ah oui, complètement. Là, pour le coup, on pense à Raymond Devos. Mmh. Vraiment. Dans la subtilité, dans la façon de glisser sur les mots, ça, c'est très réussi.
Vrai, d'ailleurs.
Après, là où moi je rejoins totalement Pierre, c'est que Raymond Devos va vers l'absurde. Et pour moi, là, on reste quand même très, très collé à la vie du réel, que ce soit, pardon, mais je vais dire la chute, excusez-moi, hein, de l'aéroport, où c'est le trou, parce qu'il a des trous dans les chaussettes et il est gêné. C'est un exemple, mais il y a quand même quelque chose qui reste très concret, assez trivial, et pour moi, qui ne va pas assez loin, alors qu'on sent qu'il a en lui tout ça. Et il reste gentil, en fait.
Gentil, Fabienne.
Mais, oui, mais moi, c'est ça que j'ai bien aimé, peut-être parce que je suis méchante, mais j'ai bien aimé sa gentillesse, sa bienveillance, son rapport humain à l'autre. Alors, ces sketchs, ils sont un peu désuets, c'est sûr. Hein, donc, ça s'adresse plutôt au quinca, au sexa et pire encore. Mais... mais moi, je trouve que c'est un magnifique comédien. Tu parlais de Gad Elmaleh, il est bien meilleur comédien que Gad Elmaleh. En plus, il joue du piano, il chante, il fait plein de choses. C'est un artiste complet. Et je trouve ça assez bouleversant de voir cet homme orchestre devant nous et qui a tellement de bonté. La trilogie de Rambert va se terminer sur la bonté. Eh bien, il semble bon, Danny Boone.
Danny Boone chez Rambert, bientôt. Clown n'est pas un métier de et avec Danny Boone continue d'être en tournée dans toute la France, au Kursaal de Dunkerque le 25 novembre, au Zénith de Rouen le 27, au Dôme de Paris le 23 janvier, etc., etc. Il y a des dates jusqu'en mars prochain au moins. La suite du programme s'intitule Musée Duras, mis en scène par Julien Gosselin, nouveau directeur du Théâtre de l'Odéon depuis juin dernier. Ce Musée Duras est une traversée de fragments très divers de l'œuvre de l'écrivaine, extraits de romans, de pièces de théâtre, de films ou de critiques. Le résultat dure 10 heures, mais pas 10 heures d'affilée. On assiste à des... Je vous vois faire... Oh pas 10 heures d'affilée. On assiste à des propositions très différentes, de 30 minutes à 1 heure, entrecoupées de pauses de 10 minutes. Donc finalement, ces 10 heures sont très rythmées. Pour la forme, ce sont 11 dispositifs très différents eux aussi, des duos ou des seuls en scène, parfois chorégraphiés. Julien Gosselin nous emmène dans l'écriture de Duras avec les jeunes comédiennes et comédiens de la promotion sortante du Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. Quand on entre dans la salle des ateliers Berthier, au nord de Paris, une voix nous demande de nous allonger en anglais. On entendra plusieurs langues dans le spectacle. Alors des spectatrices et spectateurs s'allongent sur le sol de la scène, les autres s'installent de chaque côté, et dans une quasi-obscurité, la comédienne Funemusu Sissoko s'engage dans le monologue cru de l'homme assis dans le couloir. Anna.
Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Julien Gosselin dans le paysage théâtral français, parce que c'est quand même quelqu'un qui propose des aventures qui sont follement excitantes. Là, on est dans une immense et très belle aventure qui n'est pas sans défaut. Mais je passe vraiment allègrement dessus parce qu'il y a tellement d'intelligence et de talent que pour moi ça l'emporte totalement. Alors ce qui m'a frappé d'abord, c'est l'évidence de la rencontre entre Gosselin et Duras. Chez Duras, il y a ce côté à la fois très cérébral et concret, érotique, violent, cru. Il y a le rapport au temps aussi qui est fondamental chez Duras. Il y a souvent dans ses didascalies un temps, et puis elle travaille le temps, le passé, le présent, la mémoire, la reconstruction du souvenir. Ça correspond en fait totalement au théâtre de Julien Gosselin, et donc je trouve déjà que la rencontre opère complètement. Après, il y a le traitement du texte. On sait que Gosselin aime très fort la littérature. Là, on le sent pleinement, et la façon dont le texte s'inscrit de plein de façons différentes, en italique, en français, en anglais... En farci, ça pourrait paraître artificiel, mais ça ne l'est pas du tout parce que ça joue tout le temps. Et surtout, c'est tellement physique, c'est une façon extrêmement sensuelle et physique d'incarner ce théâtre-là. Donc voilà, je suis très enthousiaste.
Fabienne ?
C'est un voyage en écriture qui est formidable parce qu'on est confronté à l'écriture de Duras qui est éclectique parce qu'elle a été Duras qui a connu le colonialisme, la résistance, qui a été féministe. Là, on la découvre à travers des articles, à travers des romans, à travers des pièces. Et le travail de Gosselin, il est formidable parce qu'il met ses jeunes acteurs et surtout les actrices qui sont exceptionnelles. Par exemple, la jeune femme qui joue la Alice Daluz Gomez, elle est éblouissante. Celle qui joue l'amante anglaise, Juliette Caon, avec un accent ch'ti, elle est formidable. Donc, il arrive à faire presque un voyage intérieur. On entre en écriture et c'est absolument magnifique.
Sandrine.
Le plus grand plaisir que j'ai eu, c'est de voir ces jeunes comédiens si investis, si sincères, avec une liberté de ton incroyable.
Ils sont pas tous formidables,
Je trouve que majoritairement, quand même,
les femmes sont très comédiennes.
Souvent, Alice Daluz Gomez, elle est, moi, j'oublierai jamais sa démarche, sa diction. C'est presque un slam ce qu'elle fait.
Du Vogue.
Ce passage est absolument incroyable. Après. C'est 10 heures, et la limite de l'exercice, c'est presque la durée. Moi, je vais vous le dire très franchement, c'était dimanche, ça a commencé à 10 heures du matin, et à 16h30, je n'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus physiquement, j'avais besoin de sortir, et je
ne... Tu pouvais t'en aller ?
Eh ben, je suis partie. Donc, j'en ai vu 7 sur 11.
T'es libre ?
Oui, je suis libre, mais même, parce que forcément, il y a des moments très forts, comme on a parlé de L'Amant ou de Savannah Bay, et il y a des moments qui sont un peu moins réussis, et du coup, ça renforce cette sensation qu'on est dans un marathon et qu'on attend un peu le prochain moment.
Mais est-ce que c'est marathon ou est-ce que c'est changer la temporalité et le rapport au temps qui fait partie de la proposition ?
Oui, mais il y a quand même un côté marathon. Et en plus,
il y a un côté physique en tant que spectateur ou spectatrice.
Et d'autant c'est la première proposition, il nous met tout de suite dans le dur. La première proposition, elle n'est pas évidente, quoi.
Où on est dans le noir, voilà. avec une parole
qui est dérangeante, avec même, hein, qui mêle vraiment le sexe, la violence, les femmes
mais
qui
voilà,
aiment se faire
battre, humilier. Mais voilà, moi je trouve quand même que c'est inégal. Moi j'ai eu du mal avec la Susanna Handler, mais franchement, ce n'est pas donné à tout le monde de tenir une telle durée de théâtre.
Pierre, as-tu tenu
Oui, moi aussi j'ai une passion pour le travail de Julien Gosselin. J'aime bien ses expériences très longues et surtout j'aime bien ce risque en fait de se réinventer tout le temps à l'intérieur des formes et donc de prendre le risque de l'imperfection. Je trouve que c'est difficile d'accuser les imperfections ou les inégalités du spectacle. Bien sûr qu'il y en a, mais je crois que c'est quelqu'un qui travaille par-delà cette question en fait, qui essaye de faire des œuvres
rugueuses. Et même il joue
rugueuses.
Avec les imperfections.
Bien sûr.
Alors, du spectacle.
Oui, mais en tant que spectateur, on peut les ressentir quand même.
Oui, mais moi pour le coup, je préfère ces moments un peu plus minimalistes. Où la pensée, la langue de Duras résonne très fort. Je pense à La maladie de la mort ou La douleur, qui sont moi les deux moments qui m'ont le plus touché. J'aime moins les moments où je sens que le dispositif essaye de faire sens un peu par lui-même. Je pense à Hiroshima, où ça écrase un peu plus l'écriture. Mais on passe 10 heures avec Duras, sans les clichés de Duras, sans le balcon sur la mer, sans l'histoire avec Yann Andréa, enfin tous ces poncifs, tous ces attendus, et surtout avec la violence de cette écriture, qui est quand même assez peu mise en avant, même si le petit reproche que je ferais, c'est que cette violence qui est sans cesse mise en avant dans le spectacle, la violence sociale, sexuelle, patriarcale, je trouve qu'il nous demande beaucoup de porter un point de vue sur cette violence et que le fait que les segments s'enchaînent si rapidement ne nous permet pas toujours de digérer ou de comprendre vraiment à quelle violence on a fait face. Voilà.
Après sa création au Printemps des comédiens de Montpellier en juin dernier, Musée Duras de Julien Gosselin se joue au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 30 novembre. On enchaîne avec Un pas de côté, première pièce d'Anne Giaferi, par ailleurs autrice de l'excellente série Fais pas ci, fais pas ça. Et ce premier texte pour la scène réunit le duo Isabelle Carré-Bernard Campan. Elle se prénomme Catherine, elle est claire principale de notaire, lui c'est Vincent, il est compositeur. Un jour de printemps, Vincent s'assoit à côté de Catherine par hasard, et entre eux, ça commence par un agacement. Ça se poursuit par un trouble grandissant, avec rendez-vous régulier sur ce banc, tandis que l'un et l'autre sont mariés avec enfant. Une comédie romantique, donc, qu'en as-tu pensé, Pierre ?
On parlait de Duras. Duras a écrit une pièce qui s'appelle Le Square, dans laquelle on voit un homme et une femme sur un banc qui vivent une sorte de tension irrésolue de l'un à l'autre. Là, je pense que c'est un hommage, une réécriture de Duras, mais par une intelligence artificielle qui serait chargée d'écrire des sitcoms pour une chaîne très obscure de la TNT. Voilà. Non, mais cette pièce, elle est tellement bourgeoise, tellement rance. Alors, on nous resserre la bonne petite morale. Il faut préserver la matérialité du couple. Tout sera, ne restera qu'un foulard sur un banc. Évidemment, c'est le personnage masculin qui tire la couverture à lui, qui a la parole, elle a que ses yeux pour pleurer, alors que c'est elle qui s'est sacrifiée. Puis alors, il y a une scène incroyable. Il y a un ami de Bernard Campan qui est un mixeur et qui regarde Isabelle Carré sur son banc. Il salive, on dirait Patrick Sébastien qui rentre de sa tournée dans les campings. Et il la regarde sur le banc. Et elle, au lieu d'être offusquée, elle lui tend la main et elle se laisse embrasser très courtoisement. Moi, c'est plutôt un grand pas en arrière qu'un pas de côté, ce spectacle.
Sandrine ?
Ouais, moi, j'ai trouvé ça, mais niant, mais vraiment, et puis la faiblesse du texte et des dialogues, enfin, je sais pas, je vous donne quelques exemples. Quand je lis, j'aime écouter la petite musique des mots, dit Isabelle Carré, et Campan de répondre, vous êtes une intello ? Et elle dit à un moment donné quand même, je me suis séparée, c'est compliqué l'amour. Et là, il y a aussi ce jeune couple, ma foi, ce jeune couple muet qui passe et qui n'a rien à faire et rien à dire. Et puis vraiment, c'est sans risque, c'est sans surprise. Le tout est bien qui finit bien.
Ah mais ça se termine mal.
Ça se termine par une sorte de conciliation bourgeoise.
Voilà, pas du tout. Ça se finit mal quand même.
Si, finalement,
ça se termine très mal.
Ne révélez pas la fin, s'il vous plaît.
Non, enfin, on ne va pas donner la fin, mais ça se termine.
Mais c'est pas si gnangnan que ça, quand
mais
même.
C'est pernignan. Pour lui, ça se termine très bien.
Sur le rapport des hommes et des femmes.
Mais ça se termine très bien pour lui. Il n'y a aucun problème.
Mais pas pour elle.
Pas pour elle,
oui. Oui, tu peux faire un peu.
Anna, alors, je pense selon toi, ça se termine bien ou ça se termine mal?
Non, ça se termine mal, mais ça se termine, ça commence mal aussi. Franchement, ce spectacle est pas possible parce qu'il est tellement inoffensif. C'est-à-dire qu'on sort du spectacle exactement comme on y est entré. Et c'est totalement convenu. Les personnages sont en effet archétypaux. C'est pas du tout de la faute des acteurs. Ils sont très bien. Ils sont tous bien. Il n'y a aucun problème d'acteur. Franchement, ils sont très bien. Mais c'est des personnages qui sont complètement réduits à leur contour. Moi, il y a plein de moments où j'anticipais les répliques, ce qui est quand même pas très bon signe. Où je dis, là, il va dire ça. Ah ben, il le disait. Ah là, il va dire ça. Hein. Et alors, petit exemple, il y a un moment, donc lui est compositeur de musique de film, et il lui fait écouter sa musique. Et elle dit, ah, c'est beau, c'est doux, c'est simple. Ben, non, c'est mièvre. Et c'est à l'image, à mon sens, de ce spectacle.
Oui, ben, rien à rajouter, si ce n'est que, bon, moi, j'ai l'esprit de contradiction, donc je vais essayer quand même de défendre la relation qui est assez belle entre Isabelle Carré et Bernard Campan, qui ont déjà joué ensemble à la dégustation qui avait eu plein de Molière il y a quelques années. Et là, entre eux, il y a une vraie connivence, c'est fluide, c'est une vraie sensibilité d'acteurs qui s'entendent bien. Et je trouve qu'Isabelle Carré a énormément de grâce.
On ne va pas au théâtre pour voir deux copains qui sont contents de jouer ensemble.
Eh ben oui, bah parfois ça suffit.
Ah oui, non, enfin, mais bah là, ça suffit euros. Pas, Fabienne, bah, ça suffit
parfois
pas.
Parfois ça suffit.
Un pas de côté d'Anne Giafferi, c'est au Théâtre de la Renaissance jusqu'au 11 janvier. On continue avec Le paradoxe de John, de Philippe Ken, qui fait de la scène de théâtre une galerie d'art. La gardienne du lieu y reçoit trois oseaux, si je puis dire, deux jeunes femmes et un homme plus âgé, qui portent Santiago, peau d'ours ou perruque rousse. Autrefois, cet endroit que la gardienne fait visiter était l'appartement d'un gars qui s'appelait Serge et qui y invitait des artistes. Et aujourd'hui, les trois visiteurs sont eux aussi invités à créer avec les objets mis à leur disposition. Alors, il y a une chaise suspendue, accrochée par une corde au plafond, du lino imitation parquet, des formes étranges recouvertes de couvertures grises. Et ils se mettent effectivement à créer, ça donne des créations au ridicule assumé, on va dire, une sculpture en polystyrène ou une éruption de mousse. La pièce est un écho à L'effet Serge, spectacle créé par Philippe Ken il y a près de 20 ans, et pour le texte, Philippe Ken s'est inspiré de poèmes de Laura Vasquez, avec qui il avait déjà travaillé. La distribution réunit Isabelle Angotti, Marc Susini, Céleste Bunkel, vue notamment dans la série En thérapie, et Véronica Vassilieva-Rige. Fabienne.
Alors ça pourrait être, si on avait mauvais esprit, on pourrait se dire que c'est comme Art de Yasmina Reza. Parce que
c'est beaucoup moins bourgeois que Art.
Ah, mais on y pense, moi je suis d'accord avec Fabienne.
On y pense.
J'ai jamais pensé une seconde.
Eh ben, ça pourrait passer comme une caricature de l'art contemporain, de performance où tout le monde s'extasie de choses très modestes.
Ce que c'est.
Or, c'est l'envers. Parce que Philippe Ken, il montre des artistes qui essayent de faire de l'art avec rien, avec le quotidien, qui montre que l'art, c'est le pur présent d'être ensemble. Et finalement, ce spectacle, c'est une ode à la vie, une ode à s'émerveiller de tout. C'est presque une méditation joyeuse sur le monde, avec des gens qui essayent de bricoler l'existence pour rendre l'existence merveilleuse. Et moi, je trouve que des artistes comme Philippe Ken, parce qu'il arrive à faire une fabrique d'art sur le plateau, des artistes comme Philippe Ken sont d'une rareté exceptionnelle.
Sandrine.
Toi, t'as dû t'embêter, Sandrine.
Pardon ?
T'as dû t'embêter.
Ah, j'ai trouvé ça terrible. Je suis jamais rentrée dedans. J'ai été complètement... c'est un ovni. J'ai été désarçonnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bric-à-brac ? Moi, je veux bien que tout soit art, mais est-ce que poser...
Ça veut dire que toi, tu peux faire
Fabienne,
de l'art aussi.
Fabienne, est-ce que poser des baies vitrées dans des rails, est-ce que c'est faire... une œuvre, est-ce que il faut
c'est pour être ensemble?
Mais c'est grotesque. Enfin, franchement, on est à la limite du ridicule. Si, alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé formidable, c'est quand ils transforment l'eau.
Donc tu n'aimes pas que l'art soit une surprise?
Mais arrête.
Parce que là, tu préviens les spectateurs et les spectatrices.
De mousse expansive. Mais je veux dire,
ah non, bon, on est surpris là avec la mousse.
Ah bah oui. Bon, enfin, ça dure 30 secondes, mais oui. Oh là, quelle mousse, c'est incroyable. Non, c'est. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a? Alors, est-ce qu'il se moque effectivement de l'art contemporain? et des installations, ou est-ce qu'il veut nous dire que tout est art? Moi, je suis pas très claire. Est-ce que effectivement un morceau de lino qui imite du parquet peut devenir une traîne? Ah ouais, d'accord, ok. On peut se mettre sous le lino aussi. Ah ouais, d'accord. Et ramper sous le lino, ok, d'accord. Mais c'est je n'ai rien ressenti. Et alors les espèces de bougies géantes, enfin, on croit qu'il y a des gens
pas
qui sont sous un grand sur des grandes couvertures, et puis finalement là on leur met une espèce de pâte. Enfin, c'est des bougies à la fin, on est d'accord, hein. C'est des grandes bougies.
Pour moi, c'est des fantômes.
Hein,
pour moi, c'est des fantômes.
On va pas lancer le débat sur les bougies.
Enfin, écoute, à la fin, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils s'auto-congratulent tous. Ils sont tous très fiers de tout ça.
Bah, c'est beau de voir ce.
Et à la fin, ils disent merci pour cette journée, et je suis pas sûre que moi, en tant que spectateur, je dise merci pour ce spectacle.
Pierre.
Ah oui, il revient à ses premières amours, ces spectacles qui sont comme des mises en abîme de sa propre fabrique théâtrale. C'est comme une sorte de visite d'espace créatif, comme il y avait dans La Mélancolie des Dragons, comme il y avait dans L'Effet de Serge. Et là, ce qu'il apporte en plus, c'est ces poèmes de Laura Vasquez qui déplacent un peu le sens politique de tout ça, il me semble, parce que là, ce qui est en jeu pour moi, c'est le fait de retrouver une sorte de rapport avec le vivant, avec la matière, avec l'énigme de cette matière, avec le grouillement de cette matière, qui a beaucoup aussi dans l'écriture de Laura Vasquez. Maintenant, moi, alors j'ai vu la deuxième représentation, je pense que ça, ce spectacle va évoluer. Je trouve
on y était le même jour.
Oui, mais en tout cas, moi, justement, je vais faire une nuance à cet éloge en soi du travail de Philippe Ken que j'aime beaucoup. C'est que je trouvais que ce collectif d'acteurs et d'actrices était un petit peu théorique, un peu trop loufoque, alors qu'il y a une sorte d'étrangeté intérieure. En fait, je trouvais que ça manquait encore un peu de vie le soir où je l'ai vu, et que par ailleurs, les poèmes de Vasquez,
je me demande s'il ne s'ennuie pas sur scène.
Les poèmes de Vasquez, je les trouve intégrés de manière un peu facile, un petit peu lâche. Ils sont un peu la caution philosophique du spectacle, mais j'ai du mal à les sentir vraiment comme la matière sensible de sa création.
Anna.
Oui, alors moi, autant j'ai beaucoup aimé, comme toujours chez Philippe Ken, la façon dont il met les gens ensemble sur scène, parce que c'est très original. Et on dirait pas des acteurs, c'est vraiment une petite communauté qui se crée, qui est très étrange. Il y a évidemment un regard sur l'art contemporain, mais on ne rit pas d'eux, on rit avec. Et c'est toute la différence, il y a une douce ironie. En revanche, j'ai été frustrée par les textes qui ne rentrent pas dans le spectacle. C'est ni complètement... ni sa frotte. Moi, je n'arrivais pas à les entendre, je n'arrivais pas à les lire. Et alors, bizarrement, c'est après. Alors, c'est un nouveau concept, hein, c'est le spectacle qui continue après le spectacle. C'est-à-dire qu'on nous donne des petits livrets avec les textes de Laura Vasquez qui sont quand même absolument splendides.
Ah,
et dans le métro, je les ai lus. Et là, le spectacle
continue. Tu pars trop vite après les spectacles.
Et raconter autre chose. Et ça, c'était. Voilà, c'est un nouveau concept.
Le paradoxe de John de Philippe Ken, c'est au Théâtre de la Bastille à Paris du 26 novembre au 6 décembre. La pièce se jouera ensuite au Théâtre Garonne à Toulouse du 22 au 25 janvier. Au lieu unique de Nantes, en mars, des dates sont prévues jusqu'en juin prochain. Et cette virgule sonne l'heure de vos coups de cœur. Sandrine, qu'as-tu choisi ?
Alors moi j'ai choisi Rose Royale, qui est un seul en scène librement adapté d'une nouvelle de Nicolas Mathieu et qui est mis en scène par Romane Bourringer. Et c'est l'histoire de Rose, donc qui est une femme ordinaire, la cinquantaine, avec de beaux restes, comme elle dit, qui est employée dans un cabinet de comptabilité, divorcée, deux grands enfants, et qui est complètement désillusionnée par l'amour, parce qu'abîmée par des relations souvent violentes. Et les hommes lui font peur. Elle a fini d'ailleurs par s'acheter un revolver qu'elle conserve précieusement dans son sac. Et puis un jour, donc elle est dans ce bar, le Royal, et un homme, Luc, va arriver et elle va retomber amoureuse. Elle va vouloir encore y croire avant de glisser inexorablement dans un mécanisme d'emprise. Ce seul en scène, il est interprété par Anne Charrier et elle l'est, mais extraordinaire dans ce seul en scène. C'est traité comme un thriller et c'est vraiment un très grand moment de théâtre. Vraiment, Anne Charrier est inoubliable dans ce Rose Royale.
Mis en scène donc par Romane Bourringer, oui, au studio des Champs-Élysées
jusqu'au
28 décembre. Pierre, c'est à toi.
Une Madame Bovary à ne pas confondre avec le Bovary Madame de Christophe Honoré. Là, c'est une Madame Bovary dans le texte, dans la complexité du roman de Flaubert qui est monté par un jeune metteur en scène qui s'appelle Hugo Malon. Le spectacle a été créé au Phénix à Valenciennes et se rejouera du 13 au 16 janvier à la Maison de la Culture d'Amiens, du 11 au 13 février à Malakoff, la scène nationale, puis au théâtre de Beauvais les 8 et 9 avril.
Quant à moi, je vous propose d'entrer dans les coulisses de la création d'un spectacle grâce à une bande dessinée qui s'intitule Fantaisie lyrique, et bande dessinée dont l'autrice s'appelle Dorothée de Monfred. Et donc c'est l'histoire de la création d'un opéra que l'autrice a beaucoup écouté petite. Le titre, L'enfant et les sortilèges, une fantaisie lyrique donc, dont le livret fut écrit par Colette et la musique composée par Ravel. Alors on suit la collaboration entre ces deux tempéraments bien trempés, et quand Dorothée de Monfred manque d'informations, elle imagine. Elle raconte la première du spectacle en 1925, mais aussi sa création quasiment un siècle plus tard, en 2023, et elle nous fait entrer dans l'atelier costume de l'opéra. On rencontre les chanteurs. De fait, le livre prend la forme à la fois d'un reportage intime, et c'est surtout une déclaration d'amour au spectacle, à ces moments où on est tellement happé par ce qui se passe sur scène qu'on ne respire plus, comme elle dit. Et à un moment, elle écrit et dessine « L'opéra, c'est trop cher ». Alors oui, mais en même temps, non. Pas plus qu'un concert de Taylor Swift. Si vous voulez aller à l'opéra pour pas cher, présentez-vous juste avant une représentation à Garnier ou à Bastille. Les places sont bradées. Et si vous n'habitez pas Paris, vous pouvez aussi voir certains spectacles sur Pop, la plateforme web de l'opéra. Voilà, c'est une déclaration d'amour au spectacle et à ceux qui le font. Fantaisie lyrique de Dorothée de Monfred est publiée chez Dargaud. Et j'ai testé, on peut le lire à partir de 10 ans. Fabienne.
Alors moi, ça sera pour le dernier spectacle de Bartabas, qui s'inspire du livre qu'il a écrit, Les Cantiques du Corbeau, qui sont 22 chants, ces Cantiques du Corbeau, inspirés de l'Otréamon et qui parlent d'une humanité première, la création du monde, un monde de violence où l'humanité, l'humain, le vivant, la pierre, le minéral sont mélangés dans la pire des violences. Et Bartabas, qui refusait jusqu'à présent le texte, eh bien là, finalement, c'est une odyssée carrément presque mystique, poétique autour du verbe. Il n'y a pas d'effet de scène, il y a quelques images simplement, les chevaux n'apparaissent que des symboles et ils incitent à un voyage qui devient tout intérieur. Alors, c'est un spectacle d'une exigence rare, mais ce que moi j'aime chez Bartabas, c'est qu'il n'hésite pas à se réinventer sans cesse. Alors évidemment, il n'y a pas de cavalcade effrénée, mais il y a un voyage initié par les chevaux et la poésie de Bartabas qui est très forte.
Cantique du Corbeau, donc de Bartabas au fort d'Aubervilliers. On termine avec toi, Anna.
Oui, alors moi, je vais vous parler de la distance. Je sais que vous en avez déjà débattu cet été, mais il se trouve que le spectacle est en tournée en ce moment, donc j'ai quand même très envie de vous en parler parce que c'est un spectacle que j'ai trouvé absolument magnifique. Ils sont deux en scène, Adama Diop et Alison Deschamps. Il est au départ lui seul. On comprend par certaines phrases comme quand on pouvait aller à la plage ou quand elle annonce le quatrième effondrement de la Terre qu'on est dans une dystopie. On est en effet en 2077 et la vie sur Terre est devenue très 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 précaire. Et donc Adama Diop est le père de cette jeune femme, Alison Deschamps, qui a choisi de s'exiler, de partir sur Mars où elle va devenir une oubliante parce que au fil des mois, sa mémoire va totalement s'effacer. Donc lui, évidemment, est catastrophé. Le dispositif, il est très simple. Sur une tournette,
il peut sembler un plateau qui pivote.
Un plateau qui pivote, exactement. Il peut sembler un peu binaire, mais c'est grâce à cette simplicité que toute la place est laissée au texte et à la dramaturgie. Le sujet est très casse-gueule et je trouve qu'il arrive à en éviter les écueils. C'est un spectacle qui n'est pas binaire dans la pensée. On a de l'empathie pour les deux personnages. C'est à la fois doux et radical. Et surtout, c'est extraordinairement bien interprété par Adama Diop, qu'on a déjà vu pas mal au théâtre, mais cette jeune femme, Alison Deschamps, qui vient de sortir de l'école du TNB, qui est absolument merveilleuse.
Donc, sur la relation d'un père et sa fille, avec en plus une chanson merveilleuse de Caetano Veloso, La distance de Thiago Rodriguez. Anna Sigalevitch, Pierre Lesquelen, Sandrine Blanchard, Fabienne Pasco, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Les prochains enregistrements de l'émission auront lieu toujours au Théâtre de l'Alliance française, le jeudi 27 novembre. Il sera question de littérature et de cinéma. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Jean-Baptiste Etchepard-Borde, Philippe Thibault et Jérémy Kaufmann aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation de l'émission et la préparation avec Zora Desgouttes. Rendez-vous dimanche prochain sur France Inter, évidemment.